Europe 1 Sport, Céline Géraud.
Oh Monaco, ton rocher est le plus beau. Vive le prince!
Vous avez reconnu ou pas l'ambiance là, c'est les Tuches.
Oui.
Mais les Tuches, ah oui. Bien
j'ai
sûr.
J'ai l'impression que c'était le stade Louis II. Mais ça résonnait pareil. Un peu vite.
Ah, vous êtes sévère. Vous êtes
un
sévère.
Peu d'humour.
Est-ce que vous avez vu, d'ailleurs, en parlant de Monaco, la team Roca au basket?
Oui, alors c'est extraordinaire.
Extraordinaire. Ouais. Deux ambiances quand même. Bon, c'est pas au stade Louis II.
C'est les meilleurs monégasques de la saison.
Ah, ben voilà. C'est
certain.
C'est sûr.
Bah,
justement.
Est-ce que ça serait un bon club pour Neymar, ça, Monaco?
Ah, Monaco. Ah,
nouveau
bonne
débat.
Question. Ah, nouveau débat. Est-ce qu'ils ont les moyens aussi? En tout cas, on est à deux journées de la fin. Ça ne nous a pas échappé. On ne connaît toujours pas les noms de toutes les équipes qualifiées en Coupe d'Europe. L'AS Monaco, le LOSC, le Stade Rennais, l'OL sont au coude à coude. Mais seulement deux d'entre elles, vous le savez, gagneront leur ticket pour la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence. À ce stade, l'AS Monaco compte 65 points et donc a laissé Lille revenir à 2 points et le Stade Rennais à 3 points. Monaco hors du top 5, est-ce possible? Je vous pose la question. Pour espérer être hors de danger, Monaco doit absolument remporter son prochain match qui sera contre Rennes.
Ah ouais.
Voilà. Est-ce qu'on peut envisager Monaco, Guillaume Bedossa, je commence par vous, Canal+, hors du top 5?
Bah, on peut complètement l'envisager, parce que si Monaco perd à Rennes justement samedi et que dans le même temps Lille bat Nantes, Monaco sort du top 5. Donc on est à un match de ça seulement, même s'ils restent
une journée derrière. Ils jouent leur vie, entre guillemets, en tout cas leur saison.
Oui, après il restera une journée derrière, mais c'est clair que beaucoup de choses vont se jouer samedi soir. Ce qu'il faut dire, c'est qu'entre Monaco, Rennes et le LOSC, actuellement c'est Monaco qui est sur la moins bonne dynamique. C'est une seule victoire sur les 5 derniers matchs. C'est très peu de certitudes dans le jeu. Cette
Toulouse,
victoire,
ensuite,
quand même...
après, ils reçoivent Toulouse.
Oui, et cette victoire de Monaco sur les 5 derniers matchs, il faut quand même noter que c'était à Angers, déjà relégué seulement 2-1. Il y a eu un petit peu des frictions d'ailleurs juste avant ce match à Angers avec autour du cas Ben Yedder, un petit peu de tension. C'est une équipe qui dégage pas de sérénité. On a l'impression qu'elle a toujours pas trouvé après 36 journées son schéma de jeu, son dispositif, sa composition. Ça change tout le temps, 4 derrière, 3 derrière, les joueurs devant changent. Donc oui, clairement aujourd'hui, s'il y a une équipe qui paraît la plus en danger, paradoxalement c'est celle qui est le plus haut, mais c'est Monaco.
Laurent Fournier.
Ouais, par rapport au match de Rennes, c'est un match qui est très important, même au niveau goal-à-virage, Rennes est au-dessus. Si Rennes arrive à faire le même match qu'ils ont fait à Ajaccio, même si c'était Ajaccio offensivement, on peut dire que Monaco est en danger. Quand vous prenez autant de buts à Lyon, que Rennes est très bon offensivement, ça va être compliqué. Moi, je pense qu'ils vont être derrière Rennes et Lille.
Ah ouais, vous les voyez sortir du top 5.
Moi, je pense que mentalement, ils s'y sont plus.
Ouais.
Comme vous le disiez, une seule victoire à Angers depuis pas mal de temps. On sent moins de sérénité.
Et comment expliquer justement cette chute du moral que vous évoquez, Laurent Fournier?
Bah après, ça dépend aussi du coaching. Quand vous faites tourner les attaquants toutes les 5 minutes, qu'il n'y a pas de stabilité dans une équipe qui joue attaquant, qui joue défenseur, on sent moins de hargne et d'envie d'aller se battre. Quand vous menez 1-0 à Lyon et que vous êtes capable après d'en prendre 3, c'est ça, c'est compliqué.
C'est Philippe Clément, selon vous, le problème qui est sur la sellette d'ailleurs,
je vais être clément avec lui parce que je pense que c'est une partie du problème. Je pense que c'est la structure du club. Mais en fait, Monaco, c'est aussi le projet. C'est aussi le projet du club. Monaco, c'est un aéroport, c'est une plaque tournante de joueurs. C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes de passage. Si vous êtes bon, vous êtes revendu. Et donc, c'est difficile d'avoir une cohésion.
Ça
et
a toujours été ça depuis longtemps. Cette stratégie, ce projet, ça fait quelques années.
Oui, non, mais ça a commencé avec l'arrivée du nouveau propriétaire, quand ils ont fait venir Campos, l'architecte du projet aussi à ce moment-là, avec des joueurs qui ont été revendus avec des plus-values extraordinaires. Mais vous avez toujours des têtes d'affiche, des stars que vous faites venir parce qu'en plus vous avez des avantages fiscaux. Bon, ça, je trouve pas ça très normal par rapport aux autres clubs de Ligue 1, mais enfin, ça, c'est juste mon opinion. Et donc voilà. Et puis là, avec Paul Mitchell, le directeur sportif, qui est sur le départ, bon, c'est les vacances, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont tout raté cette année pour moi, Monaco.
Mais Philippe Clément aussi, l'entraîneur, est sur le départ, donc il doit y avoir un peu du mou dans la corde à nœud, comme on dit.
Ils sont liés puisque c'est Paul Mitchell qui a. Ils ont raté les préliminaires de la Ligue des Champions. Ils ne sont pas qualifiés en Ligue des Champions. Ils ont raté l'Europa League insipide. Ils se sont fait minablement sortir en Coupe de France. Inconstant en Ligue 1. Et cerise sur la pâtisserie orientale, Ben Yedder, leur joueur phare, il se retrouve en conflit avec l'entraîneur et il est écarté. Donc voilà, en fait, il crée les conditions pour ne pas finir dans le top 5.
Et surtout sur le dernier sprint, j'ai envie de dire, dans les fins de fin de saison, quoi, Guillaume Pedessac.
Je pense que ce qu'on sous-estime aussi, c'est ce qui s'est passé en Ligue Europa. Nabil l'a brièvement évoqué. Monaco s'est fait sortir par le Bayer Leverkusen en 16e de finale de Ligue Europa après avoir gagné à l'aller à l'extérieur. Le match retour, c'était un match qu'ils ne pouvaient pas perdre. C'était un match qu'ils étaient censés se qualifier. Enfin, il y avait pas d'autre issue qu'on pensait possible. Ils ont complètement raté leur retour où ils se font sortir au tir au but à domicile. Et ils ont alors qu'ils étaient sur une grosse série, parce qu'en janvier et début février, Monaco, c'était une des meilleures équipes d'Europe, ouais, c'était la meilleure équipe de Ligue 1, ils gagnaient quasiment tous leurs matchs, et en fait, je pense qu'on sous-estime ce moment-là, cette cassure-là, ça a provoqué justement une cassure, je pense, et moi, j'étais à Monaco ce soir-là pour le match, et j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas pris conscience de ce qu'ils avaient raté ce soir-là. Ils avaient beaucoup minimisé cet échec-là en disant « on a bien joué, on a eu des occasions ». Ils avaient semblé trouver ça presque encourageant, alors qu'ils venaient de se faire sortir en 16e de finale par le Bayer Leverkusen, qui à l'époque était 10e de Bundesliga.
Qui était pas en bonne forme,
ils avaient gagné en plus à l'aller, ils se font sortir au retour alors qu'ils ont un but d'avance. Et je pense que ça a joué beaucoup aussi dans cette deuxième partie de saison qui est en train tout doucement de leur échapper.
Ouais, mais en regardant les résultats là, quand vous voyez que vous en prenez 3 contre Lens, vous en prenez 4 contre Montpellier à la maison, au niveau confiance, c'est compliqué. Vous perdez là à Lyon en menant 1-0. Ouais, Rennes a toutes ses chances de passer devant ce week-end si on ne retrouve pas cette envie qui était le Monaco d'avant.
13e défense de Ligue 1, Monaco. Hein. Juste un chiffre, 13e défense de Ligue 1. Avec ça, vous avez quand même très peu de chances de finir dans le top 5.
Et puis, je vais faire la blague, leur gardien, on ne peut pas lui donner le prix Nobel. parce que franchement, c'est une catastrophe. Hein. Non mais, l'autre jour, il y avait Lyon-Monaco. Si vous inversez les deux gardiens, je vous annonce que Lyon, si Nobel est gardien de Lyon, ils sont 15e, mais dans le plus grand calme. Hein. Et mais ça aussi, malheureusement, parfois.
Bah alors là, Mercato, pas bon quoi.
Bah alors Mercato, il est un peu. Ils ont fait venir Fofana, là, qui était une bonne idée, qui leur a apporté de la densité au milieu de terrain, mais trop tard. Parce qu'ils avaient des besoins. Tchouaméni est parti.
Camara
Fofana. Non, le gardien de Malien.
Oui, Mohamed Camara.
Il est arrivé quand, lui?
Il est arrivé l'été dernier à la place, mais Fofana était déjà là.
Oui, voilà, Fofana, oui. Oui, Camara, il est arrivé cet été?
Oui.
Voilà, bon, Camara. Ils avaient besoin de Camara pour remplacer Tchouaméni. Sauf qu'ils le font venir, mais après le match de Ligue des Champions, qui est le match le plus important. Donc, retard.
Le tour préliminaire.
Oui, voilà. Oui. En fait, ils ont des besoins qui sont identifiés. Il y a un joueur important qui part.
Ça fait un peu artisanal, tout ça.
Ben, ça fait un peu. Vous êtes très surpris parce que quand vous voyez
Mais ils sont troisième l'an dernier, Monaco, c'est pas rien.
Ils finissent effectivement en bout de canne.
On a presque oublié qu'ils étaient sur le podium.
Oui, mais c'est normal. Ils ont aussi l'effectif pour être sur le podium de Ligue 1. C'est pas un
exploit. Mais là, ce qui n'est pas normal, c'est qu'ils ne soient pas à la lutte pour le podium.
Voilà, c'est ça. On est d'accord que c'est quand même une contre-performance colossale d'être hors du top 5 pour Monaco. Ils sont tenus de ce qu'on vient de dire.
Et puis, on a un ressenti, je ne sais pas si vous le sentez, mais d'une équipe anonyme. C'est-à-dire que moi, ça ne m'intéresse pas.
Non, mais j'exagère. Traverse le championnat, c'est un fantôme. Quoi.
Voilà, on n'en parle jamais de Monaco.
C'est vrai qu'il n'y a même pas d'aspérité, c'est-à-dire de.
Il ne se passe rien.
Il ne se passe rien. Alors après, il ne se passe rien non plus en dehors du terrain, donc on ne va pas leur reprocher de ne pas avoir d'affaires extra-sportives. Nice, tout ça s'en occupe, très bien. Il y a d'autres clubs ou le PSG, qui occupent le terrain de ce qui se passe à côté. Mais c'est vrai que vous avez raison, cette équipe, elle n'a pas d'âme, elle n'a pas de marque de fabrique.
Elle ne nous emballe pas.
On n'a pas un truc, on se dit, tiens, ça, c'est le style Monaco, quoi.
Non, quand vous faites des changements, il n'y a pas d'identité. Il n'y a pas d'identité de jeu. Golovin, c'est bien de temps en temps. Ben Yedder, ça marque souvent en début de match. Et après, c'est compliqué. Défensivement, moi, ce qui me surprend, c'est que vous prenez 3 contre Lens et la semaine d'après, vous en prenez 4 chez vous contre Montpellier qui était... C'est quelque chose qui ne va pas. Ouais. C'est que défensivement, ça manque d'envie, de détermination. Et puis peut-être que les joueurs ont lâché. Et on va le voir ce week-end.
Ils savent que la direction sportive va partir. Ils savent que l'entraîneur est sur la sellette. Bon, ben voilà, quoi. Maintenant, chacun passe
en place. Il n'y a pas de projet, quoi. Il y a le Champion Project, là, du côté de Marseille. Il y a le projet du côté de Nice. Enfin, même les clubs qui sont dans ventre mou du classement ont des projets. Là, à Monaco, qui est de ça, qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de projet.
C'est difficile aussi de... Enfin, c'est difficile, ça doit partir de là, mais c'est difficile aussi de trouver un projet, comme le disait Nabil, plutôt. C'est comme un aéroport, c'est des joueurs qui viennent, qui font 2-3 bonnes saisons, parfois moins, et quand ils sont bons, sont revendus à des prix exorbitants. Ouais. Alors, c'est un très bon revendeur. Monaco, ils font très bien de l'achat-revente, mais du coup, derrière, c'est difficile de construire quelque chose sur du moyen-long terme, de construire un effectif, une équipe, parce qu'à chaque fois, vos meilleurs joueurs partent, vous devez les remplacer, et vous recommencez presque à zéro au début de chaque saison.
C'est ce qui tue le football aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui menace toute la Ligue 1, hein, globalement. Vous parliez de Marseille, c'est pareil, hein, c'est un aéroport. Il y a 10 joueurs qui partent, 10 joueurs qui arrivent.
On verra Lens cet été.
pouvez pas vous inscrire dans la durée. C'est terrible. Heureusement que Lens, par exemple, ça, c'est un peu rassurant. Ça nous réconcilie presque avec le football. Je veux dire, il y a quelques joueurs qui partent, mais ils sont remplacés tout de suite par des joueurs qui ont été identifiés en amont et qui peuvent parfois s'inscrire sur des cycles. Donc Monaco, au final, c'est un peu comme Blaise Pascal, c'est le pari. C'est-à-dire que c'est un pari chaque saison.
Ouais.
Et le recrutement, si vous basez toute votre logique sportive sur le recrutement, bah, par définition, un recrutement, c'est un pari.
Ce serait quand même une contre-performance colossale de sortir du top 5. On est d'accord là-dessus, Guillaume de Sac, pour cette équipe de Monaco.
C'est qui
ça intéresse, c'est-à-dire, par rapport à
la hiérarchie.
C'est
une contre-performance. Après, ils seront là où ils mériteront d'être. Et ça sera peut-être hors du top 5 parce qu'à l'arrivée, Rennes, même si Rennes n'a pas fait une saison flamboyante non plus, aura été meilleure parce que Lille est franchement cette saison bien meilleure. Et est-ce que Marseille, Lens et Marseille, Lens et Paris sont bien meilleurs que Monaco.
Oui, mais on sent beaucoup plus d'envie de la part aussi des entraîneurs. Quand vous entendez Genesio, quand vous entendez l'entraîneur de Lens parler, de vouloir être sur le podium et essayer de jouer la coupe de l'UEFA. Là, on sent pas grand-chose.
En tout cas, on suivra évidemment le dénouement de cet événement.